Le journal François Chagnot. Bonjour François.
Bonjour Quentin, bonjour à tous. Un collégien mort, une autre tout juste sortie du coma. La semaine a été particulièrement violente dans les collèges et ça suscite de nombreuses réactions dans la sphère politique, vous l'entendrez. Une affaire rarissime secoue la magistrature. L'ancienne présidente de la cour d'appel d'Agen, mise en examen et écrouée pour ses liens avec le banditisme corse.
Emmanuel Macron chamboule une nouvelle fois la formation des professeurs. Le concours n'aura plus lieu à la fin du master, mais dès la fin de la licence.
À l'international, rencontre en Ukraine avec une femme qui se bat sur deux fronts contre les Russes pour récupérer son mari prisonnier et un cancer. Et puis l'armée allemande a besoin de 109, elle tente de renouer avec la jeunesse dans les écoles et ce n'est pas une mince affaire.
La semaine, François, particulièrement violente dans les collèges de France.
Shamseddine, 15 ans, est mort hier après-midi à Viry-Châtillon. Un mineur de 17 ans, soupçonné de l'avoir tabassé à la sortie du collège, a passé la nuit en garde à vue. À Montpellier, trois mineurs ont été mis en examen hier soir pour tentative d'homicide volontaire après le passage à tabac de Samara, 13 ans, dans son établissement en début de semaine. Ce déferlement de violence provoque de nombreuses réactions politiques, Stéphane Robert.
La première réaction au moment de l'annonce de la mort de l'adolescent fut le désarroi et les larmes du maire de Viry-Châtillon.
C'est très très dur, vous voyez, je suis ému.
Jean-Marie Villain.
Mais moi, c'est pas grave. Moi, dans quelques temps, sûrement, j'aurai d'autres choses qui feront que j'y penserai moins. Sa maman, elle va y penser toute sa vie. C'est sa petite sœur qui est ici au collège. Et vous imaginez la vie qu'elle va avoir maintenant? C'est innommable.
Quelques heures plus tôt, Emmanuel Macron avait fait part de son absolue fermeté face à ce type d'agression.
Je veux que le gouvernement et nous serons collectivement intraitables contre toute forme de violence. Et je l'ai toujours dit, comme nous l'avons été quand il y a eu d'ailleurs des émeutes. Ça a été le record d'interpellation de garde à vue, y compris de mineurs. Donc nous sommes intraitables, nous continuerons de l'être.
La mort de l'adolescent a ensuite fait réagir l'ensemble de la classe politique. À commencer par la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, qui a adressé toutes ses pensées à la famille. La gauche également a fait part de sa profonde émotion. « Tristesse et colère », a écrit le député Antoine Léaumont pour la France Insoumise sur le réseau social X. Le socialiste Jérôme Guedj, lui, a exprimé son effroi. Et Fabien Roussel a souhaité que les coupables soient interpellés et condamnés par la justice. « Ne laissons pas la peur s'installer », a encore écrit le secrétaire national du Parti communiste. La droite, quant à elle, s'est indignée, avec notamment Valérie Pécresse qui a lancé un appel à un sursaut d'autorité. Le président des Républicains, Éric Ciotti, est allé un peu plus loin en affirmant qu'on était confronté à une explosion de la violence. Quant à Marine Le Pen pour le Rassemblement National, elle a une nouvelle fois dénoncé un ensauvagement qui, selon elle, ronge la société.
Et cet ensauvagement de la société, le déclin de la civilisation, ce sont les marottes d'Éric Zemmour. L'ancien candidat à la présidentielle donne un meeting cet après-midi à Palavas-les-Flots, dans l'Hérault. Il fait campagne pour la tête de liste de son parti aux élections européennes, Marion Maréchal. Mais le duo montre des signes de tension depuis plusieurs semaines, d'autant plus que leur liste Reconquête est toujours au ras des pâquerettes dans les sondages, Antoine Marette.
Ça devait être le binôme gagnant, mais pour le moment, c'est un binôme stagnant. Les sondages se suivent et se ressemblent. La liste menée par Marion Maréchal ne dépasse plus les 6%. Et les désaccords entre la tête de liste de Reconquête et Éric Zemmour s'étalent désormais dans les médias. Désaccords de stratégie essentiellement. Face au Rassemblement national, Éric Zemmour joue la carte de l'opposition frontale. Marion Maréchal, elle, tend la main à ses adversaires sur le mode « Nous avons tant de choses en commun ». Éric Zemmour qui refuse de s'effacer pour donner de l'oxygène à Marion Maréchal. Le mois dernier, il lui a quasiment volé la vedette lors du grand meeting de lancement au Palais des Sports à Paris, avec un discours interminable. Il multiplie les apparitions sur les plateaux de télévision, monopolisant le temps de parole de Reconquête. L'un et l'autre reconnaissent des tensions tout en les minimisant. Il n'y a pas de rupture de dialogue, a assuré ce mercredi la tête de liste de Reconquête lors d'un déplacement en Isère. Marion Maréchal et Éric Zemmour sont condamnés à s'entendre d'ici le 9 juin. Un échec de la liste Reconquête compromettrait fortement l'avenir politique de l'une comme de l'autre.
Antoine Marette. Une juge derrière les barreaux, une magistrate de la cour d'appel d'Agen, mise en examen et écrouée cette nuit après son placement en garde à vue mercredi. La justice la soupçonne notamment de détournement de fonds publics, de trafic d'influence ou encore d'association de malfaiteurs, des faits qu'elle aurait commis entre 2008 et 2022 et en particulier lors de son passage en Corse entre 2010 et 2016. Bonjour Florence Turme.
Bonjour.
Cette magistrate est donc soupçonnée de lien avec le banditisme corse.
Oui, et c'est une décision rarissime qui est intervenue au milieu de la nuit. Hélène Gérard a été écrouée conformément aux réquisitions du parquet de Nice qui avait ouvert une enquête préliminaire en janvier 2021. Deux juges d'instruction sont désormais co-saisis afin de poursuivre les investigations sur cette affaire. Ils ont prononcé hier soir la mise en examen de la magistrate. Pas moins de 11 chefs retenus, tous conformes aux demandes du parquet. Des soupçons très lourds et qui s'articulent sur plusieurs terrains différents. Trafic d'influence, association de malfaiteurs, recours au service d'une personne exerçant un travail dissimulé en bande organisée, des délits passibles de 10 ans d'emprisonnement. Les enquêteurs auraient mis en exergue, à la lumière d'interceptions téléphoniques et d'autres documents saisis, la relation de proximité entre Hélène Gérard et Joan Carta, membre présumé du banditisme corse, actuellement sous les verrous. Le parquet de Nice mentionne ainsi des travaux réalisés dans la villa que la magistrate occupait au sud d'Ajaccio quand elle était en poste sur l'île en tant que juge d'instruction. Également des services réciproques, elle est soupçonnée d'avoir pu prodiguer des conseils juridiques à d'autres personnes connues des services de police et communiquer des informations sur des procédures en cours, avec à la clé un possible détournement de fonds publics évalué à 120 000 euros pour la réalisation d'expertises fictives. Les avocats d'Hélène Gérard, eux, la présentent comme une professionnelle appréciée pour son travail et sa pugnacité. Ils affirment avoir déjà trouvé des éléments qui remettent en cause une enquête menée selon eux exclusivement en charge. En attendant, conclut-il, c'est l'échec absolu d'une innocente incarcérée.
Merci Florence Sturm. La ministre de la Santé et des Solidarités détaille le plan de développement des soins palliatifs. Dans les colonnes du journal Le Monde ce matin, Catherine Vautrin promet 1,1 milliard d'euros sur 10 ans pour ouvrir des lits supplémentaires à l'hôpital, 240 de plus en 2025 dans ses unités spécialisées. Elle souhaite également faciliter l'hospitalisation à domicile. La ministre qui développe aussi l'esprit de la loi sur la fin de vie, proposer en premier lieu des soins palliatifs à ceux qui remplissent les critères de l'aide active à mourir. Le texte sur la fin de vie sera discuté à partir du 27 mai à l'Assemblée nationale.
France Culture, il est 8h07, le journal François Chagnot, et il faut plus de professeurs des écoles, et vite.
C'est l'esprit de la réforme de la formation des enseignants annoncée par Emmanuel Macron hier. Les étudiants passeront le concours à bac plus 3 plutôt qu'à bac plus 5, et pour s'y préparer, ils suivront une licence spécifique avec beaucoup plus de stages. Une professionnalisation bienvenue pour Philippe Ratinet, président du syndicat national des écoles, qui regrette néanmoins l'avancement du concours à la fin de la licence.
Elle présente un intérêt tout particulier dans un métier où il existait un réel choc entre les souvenirs des bancs de l'école que pouvaient avoir les futurs collègues et la réalité à laquelle ils étaient confrontés. C'est un métier qui s'apprend énormément en le pratiquant, et l'idée d'une entrée plus professionnalisante dans le métier, c'est quelque chose qui, au niveau de notre syndicat, semble tout à fait intéressant et pertinent. Par contre, ce qui nous questionne un petit peu plus, c'est le positionnement global de la profession par rapport à ce changement-là, puisqu'on était sur un recrutement à bac plus 5. Redescendre quelque part le niveau de qualification reconnu pour être un professeur des écoles, ce n'est quand même pas un signal positif par rapport à l'importance de la mission qui est celle des professeurs des écoles. Le professeur des écoles est en fait un spécialiste très généraliste, puisqu'il enseigne dans énormément de domaines, et penser qu'il n'a pas besoin de se former pour ça, c'est une erreur. Les retours qui sont faits sur les jurys du CRPE, du concours de recrutement des professeurs des écoles, sont parfois assez consternants, voire alarmistes, quant au niveau des futurs collègues qui se présentent. Et c'est vrai qu'on peut se poser quand même légitimement la question de l'intérêt de réduire la formation de base des enseignants.
Et la secrétaire générale du syndicat SNES FSU juge cette réforme extrêmement problématique. Emmanuel Macron préfère parler du concours plutôt que des conditions de travail et du salaire. Fin de citation. Une frappe de drone russe a tué 6 personnes cette nuit dans la deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, à l'est du pays. Et même loin du front, les Ukrainiens doivent redoubler d'efforts pour tenir le coup après plus de 2 ans d'invasion russe. Surtout quand la vie vous impose d'affronter à la fois la guerre et la maladie, comme pour cette jeune femme que notre correspondante en Ukraine a rencontrée à Kiev. Elle se bat contre un cancer et pour libérer son mari, prisonnier de guerre. C'est un reportage Agathe Mahué et Yachar Falziliov.
Olia a 24 ans, un lymphome de Hodgkin et déjà 12 chimios derrière elle, qu'elle doit gérer sans son mari, prisonnier des Russes depuis 2 ans.
Tout ce que je sais de lui, c'est qu'il a perdu beaucoup de poids.
L'inquiétude de chaque côté de leur couple. Lui ne sait pas où en est le cancer d'Olia, diagnostiqué peu avant la guerre. Une fois seulement cet automne, elle a pu dialoguer avec Ruslan, un appel en visio.
Il a vu que mes cheveux n'avaient toujours pas repoussé. Mais bien sûr, je lui ai menti. Je ne lui ai pas dit que j'avais dû refaire toutes ces chimios, vous comprenez ? Il est dans de telles conditions de détention que je lui ai dit « Ne t'inquiète pas, tout va bien ».
Olia dit que tout est plus dur sans lui. Déplacée de Berdiansk, c'est aujourd'hui auprès des autres femmes de prisonniers qu'elle puise aussi sa force. 277 soldats capturés dans ce bataillon.
Mon quotidien est un combat contre la maladie, pour libérer mon mari et pour alerter le reste du monde sur la situation de nos prisonniers de guerre.
Bientôt, elle fera à Kiev une greffe de moelle osseuse. Olia a fait promettre à son mari de rester vivant. Lui est d'accord, à condition qu'à son retour, ils fassent ensemble 3 enfants.
Et la guerre en Ukraine incite Berlin à augmenter ses dépenses militaires et à refondre son armée, la Bundeswehr. Le chantier est colossal. L'objectif, 205 000 soldats en 2031, soit 14% de plus d'aujourd'hui. Mais le problème, c'est que les vocations manquent. Alors, le ministre de la Défense envisage même de rétablir la conscription, pourtant abolie en 2011. Car pour l'instant, les interventions de l'armée allemande menées dans les écoles auprès des élèves depuis des décennies ne portent pas leurs fruits. Elles font même débat dans le pays. Nathalie Versieux.
Une quarantaine de lycéens de Berlin vient d'assister à un discours de l'Assemblée générale de l'ONU. Nous ne sommes pas à New York et l'orateur n'est pas un représentant des États-Unis, mais l'un des professeurs de nos lycéens. Les élèves participent dans le cadre de leur cours d'éducation civique à un jeu de rôle sur la politique mondiale organisé par la Bundeswehr, l'armée allemande. La session dure 1 semaine et fait le tour des enjeux géopolitiques, comme à l'ONU donc, mais là, ce sont les élèves qui proposent les solutions. En Allemagne, des officiers sont spécialement formés pour expliquer à la jeunesse le rôle d'une armée parlementaire. Le capitaine Jan Czarnicki est l'un des animateurs du jeu de rôle.
On nous soupçonne souvent de venir dans les écoles pour y faire du recrutement, mais ce n'est pas du tout ce que nous faisons. Nous informons sur la politique de sécurité. Bien sûr, il y a toujours des élèves qui s'intéressent à la Bundeswehr en tant qu'employeur. La seule chose que nous pouvons faire dans ces cas, c'est de les diriger vers le service d'orientation de l'armée.
Les interventions de la Bundeswehr dans les écoles font débat en Allemagne. Martina Schmeer, du syndicat des enseignants GEW.
Le jeu politique en soi est certainement très bien sur le plan didactique, oui. Mais il suit une logique de guerre et assez souvent, ce jeu se termine par un scénario de guerre nucléaire.
Avec l'invasion de l'Ukraine, la demande a augmenté du côté des établissements scolaires. Les besoins de l'armée en nouvelles recrues aussi. De quoi relancer le débat autour des interventions de l'armée dans les écoles.
Et la guerre en Ukraine, toujours, c'est également un des enjeux majeurs du second tour de l'élection présidentielle en Slovaquie. Aujourd'hui, l'ancien diplomate pro-occidental Ivan Korkoč affronte l'ancien Premier ministre Peter Pellegrini, proche du pouvoir et sceptique à l'égard de Kiev. Les derniers sondages les donnent au coude à coude. Où que vous habitiez en France, impossible de ne pas remarquer les températures exceptionnelles de ce mois d'avril, le plus chaud depuis 2011. Cet après-midi, le mercure va grimper jusqu'à 30 degrés dans le sud-ouest, 26 degrés dans le nord-est de la France. Et ces records, ils sont liés au réchauffement climatique, selon Guillaume Séchet, météorologiste et créateur du site météo.com.
Il y a de l'air chaud, très chaud même sur le Maghreb. L'air chaud va être propulsé vers la France. Si bien que la chaleur propulsera de la poussière du Sahara, d'autant qu'une dépression assez creuse va se former au large de l'Irlande. Donc elle va avoir un côté explosif en provoquant une violente tempête sur l'Irlande. Et cette dépression donc va avoir un effet de pompe à chaleur et donc de propulser encore davantage cet air chaud en provenance d'Afrique du Nord vers nos régions. Si bien qu'on aura des températures exceptionnelles d'un niveau des records pour un début de mois d'avril. On devrait dépasser effectivement les 30 degrés sur le Pays basque et 25 degrés sur les deux tiers ou la moitié de la France. Hein. Par exemple, à Lyon, le record, c'est 27 degrés en 2011. Sur les régions du Nord, c'est 25-27 degrés également d'ici la fin du siècle. Il est possible qu'à un moment donné, au mois d'avril, on ait plus de 30 degrés quasiment partout, comme en plein été. C'est pas complètement exclu.
Et ce matin, températures exceptionnelles, donc il fait entre 11 et 17 degrés et même 24 à Biarritz ce matin. Le ciel est voilé partout en France, les nuages sont plus épais sur la pointe bretonne et le golfe du Lion.